France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Vous vous appelez Aurélie Martin, vous avez 42 ans, vous mesurez 1m64 à peu près pour, disons, 67 kilos. Vous avez fait 1,54 enfants. Félicitations au dernier. Ça va en ce moment dans votre vie parce que vous avez 40% de chance de divorcer. Vous avez une voiture, bien sûr, vous habitez à la périphérie d'une grande ville, plutôt un pavillon. Et honnêtement, si vous vous appelez vraiment Aurélie Martin et que vous cochez ces coches-là, je vous jure que je fais les pieds au mur immédiatement parce que c'est le portrait type du Français moyen qui est donc une femme et qui s'appelle Aurélie Martin. Il y a 44 ans, en 1980, elle s'appelait Françoise Martin. Elle avait fait 1,94 enfants. Pourquoi 81 ? Parce que le magazine Actuel était parti en quête de la Française moyenne à l'époque. Le magazine Oui Demain a décidé de faire la même chose 44 ans plus tard. Donc, statistique de l'IFOP en bandoulière. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est si vous vous décrivez comme Française ou Français moyen ou appartenant à la classe moyenne, parce qu'on verra quelle différence ça fait. Français moyen, c'est vrai que ça nous renvoie un peu une chanson de Sheila, classe moyenne, au moins la moitié justement des Français s'y réfèrent ou estiment en tout cas appartenir à cette classe moyenne. On va essayer de mettre les définitions derrière tout ça, en tout cas ce croisement de portraits entre Françoise et Aurélie entre 81 et 2025 nous parle de vieillissement de la population, de travail des femmes et même de féminisme, d'institutions moins attachées à nos chevilles comme le mariage par exemple, d'éloignement des villes mais souvent pour une histoire de prix de l'immobilier, à moins qu'elle n'existe plus la Française moyenne parce que nos vies désormais rentrent moins dans des cases, elles sont éclatées, diverses, monoparentales, homoparentales, nos maisons, nos vies sont contenues dans nos téléphones, nos jobs sont en perpétuelle évolution. Il reste quand même probablement des traits communs, peut-être des aspirations communes et une vraie interrogation à la fin sur qui sera dans 45 ans en 2070 la Française moyenne. Peut-être que ce sera une Emma ou une Chloé Martin et qu'est-ce qu'elle aura bien fait de sa vie. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez, on va commencer par un message WhatsApp parce que c'est ce qu'on a trouvé de plus proche en fait de notre Française moyenne. C'est une Aurélie qu'on salue et nous dit ceci. C'est très drôle, je m'appelle Aurélie, donc pas Martin. J'ai 43 ans, j'ai un enfant, un chien et un chat. Je vis en Bretagne dans un village de 4000 habitants. Je ne suis pas exactement dans la cible mais je suis vraiment pas loin et je ne sais pas, dit-elle, si je dois m'en réjouir ou pas. Bah, on verra avec elle s'il faut s'en réjouir ou pas. Je vous salue Frédéric Brié, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant et c'est vous qui avez travaillé avec Oui Demain sur cette fameuse enquête. Et bonsoir Jérôme Fourquet.
Bonsoir.
Le directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. C'est vous auteur de Métamorphose française, notamment au seuil en 2024. Je vais commencer avec vous quand même, Jérôme Fourquet. On va la chercher, on va s'amuser à la chercher, cette Aurélie Martin. Mais honnêtement, est-ce qu'elle existe ? Est-ce que ça existe encore, la Française moyenne ?
Alors, les moyennes, c'est toujours des questions de statistiques. Déjà, à l'époque, l'enquête d'Actuel avait montré comment c'était compliqué de faire rentrer tous les paramètres dans une case, parce que sans rentrer dans le détail, c'est un peu un Rubik's Cube. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une femme qui ait tel âge, qui vive dans telle région. Et donc, plus on rajoute de critères, plus on va avoir des difficultés à la trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des grandes tendances qui se dessinent. Et puis surtout, c'était la très bonne intuition de Frédéric Brié, c'était de reconduire cette enquête à plus de 40 ans d'écart pour voir comment les deux grands stéréotypes de la Française moyenne avaient évolué dans le temps. C'est ça qui nous a aussi beaucoup intéressés.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même des fils rouges et des liens entre Françoise et Aurélie, au fond. Après, Frédéric Brié, on va conserver le suspense pour nos auditeurs, mais vous ne l'avez pas trouvé non plus, Aurélie Martin. Vous l'avez cherché, mais effectivement, celle qui coche toutes les cases, elle n'existe pas.
C'est ça, elle n'existe pas, parce que plus on cumule de critères, plus elle devient introuvable. Et voilà, je reconnais avoir partiellement échoué dans ma quête. J'ai trouvé des Aurélie Martin qui s'approchaient un peu de la Française moyenne, mais qui ne cochaient pas toutes les cases.
Alors après, qu'est-ce qu'on fait comme lien entre Françoise et Aurélie, Jérôme Fourquet ? Le lien, ce qui fait quand même qu'il y a quelque chose qui nous rattache encore, c'est quoi le plus grand lien finalement ?
Alors, il y a quelque chose qui peut les relier, c'est peut-être leur positionnement sociologique, dans le sens où la catégorie des employés, au sens INSEE du terme, est aujourd'hui la catégorie socio-professionnelle la plus nombreuse. Elle était la deuxième après les ouvriers en 81. Et chez ces employés de bureaux ou autres, du commerce, des vendeuses, etc., il y a beaucoup de femmes. Et donc on est sur ces métiers féminins de l'économie tertiaire qui ont pris beaucoup de place. Et donc, ce que vous racontiez, c'est aussi la poursuite de l'accès au marché du travail pour les femmes, avec des métiers qui sont différents. Et peut-être, on en reparlera tout à l'heure, mais une des transformations, pour le coup, les plus importantes, c'est l'accès aux diplômes.
Bah exact, c'est ce que j'allais vous dire. En fait. Mais c'est marrant parce qu'on les trouve quand même dans les employés, beaucoup plus diplômés.
Donc quelqu'un qui n'aurait pas été titulaire du bac, qui aurait pu être caissière ou employé de bureau il y a 40 ans, aujourd'hui, pour accéder à ces métiers, il faut absolument avoir le bac, mais c'est possible, puisque nous sommes aujourd'hui à plus de 80% d'une classe d'âge jeune qui va aller au bac, alors que quand Actuel fait l'enquête, et on l'a complètement oublié, il y a moins de 30% de jeunes qui allaient jusqu'au bac. Et donc ça, c'est une des révolutions silencieuses les plus spectaculaires.
Ce que j'ai trouvé intéressant sociétalement, si je puis dire, Frédéric Brier, là aussi c'est un peu de la révolution silencieuse. Elle est toujours en couple, notre femme moyenne, mais absolument, elle n'est pas mariée. Elle a toujours, alors un peu moins d'enfants effectivement, mais qu'elle a fait hors mariage. Et là, pour le coup, la vraie différence en 45 ans, elle est peut-être là.
Exactement. C'est le fait que les femmes aujourd'hui, une majorité d'enfants, naît hors mariage. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait, sur le plan historique, c'est vraiment une révolution. Jérôme Fourquet a fait des recherches, d'ailleurs. Il va pouvoir vous en dire plus. Je crois que c'est resté longtemps à 10% d'enfants nés hors mariage pendant des siècles. Mmh. Et ça a explosé à partir des années 80,
voilà.
C'est ça.
Donc c'est, alors prenons une Aurélie Martin, par exemple, qui aurait été jeune institutrice en 1981. La première classe qui lui est confiée est composée seulement à 10% d'enfants dont les parents n'étaient pas mariés. Elle part en retraite avec ses 40 annuités en 2021. Mmh. Sa dernière classe, deux tiers des enfants ont des parents qui ne sont pas mariés. Mmh. Et donc, comme le disait Frédéric, cet indicateur des naissances hors mariage, alors avant, on le donnait même un autre nom, hein, c'était naissance illégitime,
oui,
voire
vrai,
d'autres
ouais.
noms.
Oui, oui. Enfant naturel, etc. Enfin, alors, toutes ces expressions.
Plus dur encore. Oui. On était à 10% des naissances, et en 40 ans, ça a été multiplié par 6,5, à tel point que c'est devenu la norme aujourd'hui d'avoir des parents qui ne sont pas mariés.
Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? À votre avis, pourquoi le virage il se fait à ce moment-là ? On pouvait imaginer qu'il se ferait un peu avant, dans la décennie 70, celle de la libération sexuelle, celle de la libération des femmes, mais en fait, il se fait après.
Oui, parce qu'il y a une forme d'inertie, en fait. C'est-à-dire que le poids des habitudes, des traditions, des représentations met du temps à s'estomper. Et donc, il a fallu une quinzaine ou une vingtaine d'années après les années 60 pour que tout ça arrive à maturation, puis ensuite que ce phénomène s'emballe spectaculairement. Alors, on a parlé des vivants. Aurélie est encore vivante, mais ouais. Si vous prenez un autre indicateur, qui est celui des rites funéraires. Là aussi, en 1981, il y a simplement 0,9% des obsèques qui donnent lieu à une crémation. C'était complètement impensable au sens premier du terme, même l'Église avait desserré la contrainte, mais les Français continuaient de se faire enterrer. Aujourd'hui, on est à 45% de crémation. Et donc, on voit là aussi comment, dans les années 80, des choses qui étaient restées immuables, rites funéraires, institutions du mariage, tout ça a volé en éclats, était profondément modifié.
On va retourner au standard dans un instant. Une question avant, Frédéric Brier, puisque vous en avez rencontré deux, des Aurélie Martin, l'une à Marseille, l'autre à Sète. Alors effectivement, on coche pas toutes les cases, mais moi, ma curiosité, c'est quand vous leur dites, vous êtes français moyen, vous êtes la française moyenne, moi j'aimerais savoir ce que c'est la réaction en fait. Si aujourd'hui, on se revendique français moyen, on se revendique classe moyenne, français moyen c'est encore autre chose, et il faut qu'on la fasse cette différenciation, parce que c'est pas pareil en fait.
Exactement, c'est pas pareil, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une image un peu ambigu, c'est-à-dire entre le français moyen dans l'imaginaire collectif, vous avez d'une part de nombreux politiques, ils évoquent les classes moyennes, ils ne parlent pas tellement de français moyen.
Jamais.
Parce que
c'est
une
très péjoratif en fait, la connotation est assez péjorative.
Est assez péjorative, mais en fait, quand on parle de classe moyenne, on fait référence au français moyen implicitement, et donc c'est pourquoi en fait c'est une question de vocabulaire. Les gens acceptent volontiers de dire qu'ils appartiennent à la classe moyenne, il y en a même d'ailleurs, d'après, selon Jérôme Fourquet, plus qui se revendiquent de la classe moyenne qu'ils ne le sont effectivement, mais ils acceptent beaucoup moins facilement de dire qu'ils sont des Français moyens parce que ça les banalise. Le Français moyen, c'est Monsieur Tout-le-Monde, c'est perçu de manière condescendante. Et puis la culture populaire, il faut dire, elle ne donne pas une image très valorisante du Français moyen.
Alors ça, c'est bon qu'on puisse exemples. Dire. Alors effectivement, vous allez me parler de Sheila, c'est ça?
Absolument.
De cette chanson.
Alors,
très
Sheila,
condescendante
je vous rappelle
en réalité.
Dans les années 60, quand Sheila chantait la petite fille de Français moyen, c'était Tandis que moi, qui ne suis rien, rien qu'une petite fille de français moyen, déjà, c'est pas terrible, vous voyez, quand on a lancé ça. Et j'apprends chaque jour en m'amusant que l'expérience vient avec le temps. Donc c'est vraiment plat, c'est vraiment banal.
Donc à la base, je ne sais pas grand-chose, mais je sais que la vie va m'apprendre, etc. Ça. Après, moi, je trouve ça intéressant, Jérôme Fourquet. D'abord, le côté péjoratif. D'où il vient ce terme français moyen, en fait ? Qui a inventé ça ? Est-ce que c'est une invention de statisticien, cette affaire ? Alors, ou de politique ?
Peut-être, ou de... peut-être aussi d'humoriste. Et le, si on met les pieds dans le plat, dans les années 70 ou début des années 80, le français moyen, c'est le beauf de Cabu.
Mais ouais.
Hein, c'était celui qui sort pas de la norme.
Bah, et puis fait... c'est Gérard de Coluche, non ?
Voilà, voilà, c'est tout ça. Ouais. Et donc il y avait, dans toute cette vague post-68, une espèce de dénigrement du français un peu franchouillard, français moyen, le français de base, avec... le papa d'Aurélie, ou même plutôt de Françoise,
première,
c'était le béret, la baguette. Donc c'est tout cet imaginaire-là, alors que classe moyenne, c'est beaucoup plus accepté, beaucoup plus valorisé.
Et c'est intéressant qu'on ait tous envie de se référer à la classe moyenne, même si, en fait, on est bien au-dessus, ou parfois au-dessous d'ailleurs, mais il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est quelque chose de rassurant, ou en tout cas d'acceptable quand on est dans la classe moyenne, parce qu'on n'est pas trop riche,
voilà.
Et quand même, on se débrouille.
Voilà, exactement. Et donc, quand à l'IFOP ou ailleurs, on pose des questions en demandant aux gens dans quel tranche vous situeriez de la population. Alors on met différentes acceptions de classe moyenne, on dit classe moyenne supérieure, classe moyenne inférieure, riche, pauvre, etc. On a à peu près deux tiers de la population qui coche une des cases les raccrochant à la grande classe moyenne, avec une nouveauté par rapport à il y a 25 ou 30 ans, c'est la peur d'en sortir par le bas. C'est la peur de décrocher et de ne plus pouvoir se revendiquer comme étant classe moyenne.
Et de devenir français moyen, peut-être même. Peut-être que la classe du bas, fond, désormais, est identifiée comme ça. La voilà, Aurélie, dites-moi. Aurélie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Est-ce que c'est vous, Aurélie Martin ?
Bah écoutez, j'étais justement en train de cuisiner, comme tous les soirs, en vous écoutant. Et quand j'ai entendu le thème de l'émission, bah, je me suis quand même assez bien reconnue dans cette femme moyenne là, que vous décrivez depuis tout à l'heure.
Allez-y.
Alors écoutez, moi je m'appelle Aurélie, pas Martin.
Ouais.
J'ai 44 ans et donc voilà, ben je suis mariée, j'ai deux enfants et donc je suis professeure des écoles à côté de Saint-Brieuc.
D'accord. Et donc vous avez une maison, mais pas un appartement. Est-ce que vous avez un animal de compagnie ?
On a un petit chat. Ah. Oui, tout à fait. Voilà. Hein ? Donc une famille voilà. Classique.
Combien vous avez de voitures, Aurélie ?
Nous avons deux voitures.
Aurélie, c'est vous qu'on va devoir mettre sous verre.
Comment ?
C'est vous qu'on va devoir mettre sous verre, parce que c'est vous, en fait, ou quasiment. Après, ça me fait, je trouve ça vraiment charmant et c'est vraiment sympa de nous avoir appelés. Je me demandais si, en écoutant cette description, en fait, vous vous dites « Ah, c'est rigolo, je coche toutes les cases » ou est-ce que vous vous dites « Oh merde, je coche toutes les cases ». En fait, c'est quoi votre réaction ?
Un peu des deux, en fait. Un peu des deux, mais après... Voilà, je me réclame pas d'une originalité folle. Après, ma vie me convient bien.
Ouais.
Voilà, je suis heureuse. On vit dans un coin magnifique. Mes enfants vont bien. Voilà. Et donc après, je suis pas très étonnée de correspondre à ce portrait finalement, parce que voilà. Alors c'est celui aussi de beaucoup de gens autour de moi, du coup.
Bah oui, j'imagine.
Ouais, ouais.
Écoutez, Aurélie, merci beaucoup, merci vraiment de cet appel, c'était un plaisir de vous avoir au téléphone. Jérôme Fourquet, moi ce que j'aime dans ce que dit Aurélie, c'est... alors bien sûr, je suis pas d'une originalité folle, mais il faut rassurer tout le monde, aucun d'entre nous n'est d'une originalité folle au final, en fait. C'est tous le français moyen de notre voisin. Hein.
Exactement, et donc vous me demandiez d'où ça venait ce terme. Français moyen, c'est la moyenne.
Ouais, ouais.
Donc, en statistique, la moyenne, c'est ce qui est le plus partagé, même si il y a un côté un peu artificiel, parce qu'on fait des moyennes, mais c'est pas un hasard si quand même beaucoup de gens collent assez bien sur plusieurs facettes au portrait robot que Frédéric Brier a dressé.
Ce que ça veut dire, effectivement, et on s'en rend bien compte, Frédéric Brier, on se rend compte que nos vies aujourd'hui, 45 ans plus tard, sont différentes. Je parlais tout à l'heure de couples homoparentaux ou pas, etc. Mais effectivement, ce sont quand même des cases assez basiques qu'on peut aller chercher finalement assez facilement en couple ou pas en couple, une voiture ou pas de voiture. Dès lors qu'on habite de toute façon à l'extérieur d'une grande ville, on en a suffisamment parlé ici même, de toute façon la voiture est est indispensable. Mmh. Au fond, chacune de ces cases sont des cases assez banales qu'il est facile de cocher, même quand on ne s'appelle pas Aurélie, finalement.
Exactement. Ce qui est difficile, c'est de les cumuler toutes. Parce que quand on va chercher au fin fond des statistiques, il y aura toujours un moment où on va s'écarter de la française moyenne idéale ou typique, et celle que je n'ai jamais rencontrée, et qui n'existe que dans les statistiques, d'ailleurs.
Et alors, ce qui est intéressant, quand même, c'est aussi... Là, par exemple, Aurélie habitait comme un peu à l'écart d'une grande ville. Oui. Les raisons, Jérôme Fourquet, ce n'est pas tant qu'on décide d'aller s'éloigner de la ville, c'est juste que l'immobilier est devenu beaucoup trop cher. Donc c'est pour ça aussi que la française moyenne s'éloigne des villes. Ce n'est pas un choix de vie, c'est un choix de prix.
C'est les deux. Il y a le prix, mais il y a aussi, sans doute, alors là... vous disiez dans votre introduction, est-ce qu'on a encore beaucoup de choses en commun en termes d'aspiration ? Typiquement sur le logement, quand vous interrogez les Français et les Françaises, 88% d'entre eux aspirent à vivre dans une maison individuelle. Et donc à Saint-Brieuc, à côté de là où habite Aurélie, il y a des maisons individuelles dans la ville. Mais il y en a quand même beaucoup à l'extérieur. Et puis, maison individuelle avec jardin. Donc, c'est à la fois le prix, mais aussi cette aspiration. Et puis, le même pourcentage, 88% des Français aspirent, s'ils le peuvent, à être propriétaires.
En parlant d'aspiration, je reviens à ce que disait Aurélie, qui dit je vais bien, je suis heureuse dans la vie et mes enfants vont bien. Et je me demandais si ces aspirations-là, en fait, là aussi, c'était ça le fil rouge, en fait. Et on est pile dessus, qu'on soit Françoise, Aurélie ou peut-être Emma dans 45 ans, quoi.
Oui, bien sûr, avec et notamment sans stéréotype pour une maman, de dire je vais bien, mais mes enfants vont bien, ils sont épanouis et donc... Heureusement, il y a des invariants.
On a, Frédéric Brier, un peu parlé de son niveau d'études. Effectivement, Aurélie, qui est un peu supérieure à celui de Françoise. Mais il y a Céline, justement, qui nous dit, c'est quoi son niveau d'études à Aurélie Martin, en fait, désormais ?
Alors, il y en a une des deux Aurélie était niveau bac. Et l'autre, elle reprenait ses études et elle est arrivée à un niveau, à master. Donc, elle sortait un petit peu de la classe moyenne, de la française moyenne. Parce qu'elle reprenait ses études, elle était en reconversion professionnelle. Donc, celle qui collait le plus aux critères de la française moyenne, c'était celle qui habitait 7, parce qu'elle était cuisinière, elle faisait la cuisine dans une cantine, quelque chose comme ça. Et donc, elle était dans la catégorie employée au sens large.
Voilà. Il y a Clément qui nous dit, ma fille s'appelle Aurélie, elle a 44 ans, donc tchèque. Elle est cadre, semi-tchèque, parce que donc voilà, un emploi un peu supérieur. Séparée, deux enfants, tchèque, là, pour le coup, non pour les deux enfants, peut-être un peu moins.
Il y a quand même encore un peu moins de gens qui divorcent que de gens qui ne divorcent pas. Donc,
ils sont moins mariés aussi.
Voilà, ils sont moins mariés, exactement. Ils sont moins mariés. Marc est avec nous, bonsoir Marc.
Bonsoir à vos invités. Et dans le générique du téléphone sonne, il y a quelqu'un qui dit « il ne faut pas changer de radio ». Oui. Il a raison, parce que la richesse de vos sujets est vraiment impressionnante. Alors, ceci dit, j'ai une petite question.
Vous n'avez pas de question, Marc, après ça?
Pardon?
Ah, non, je vous écoute, allez-y.
J'ai une petite question. Je me demande si Aurélie porte des couettes comme Sheila à ses débuts. Et puis, au sujet des Martins, je trouve que, félicitations à France Inter, qui a une illustre représentante parmi ses animateurs. Enfin, je pense à l'animatrice Patricia Martin, qui anime entre autres Laure Philo, puis qui intervient dans le masque à la plume, dans la partie littéraire.
Absolument, voilà. On l'embrasse, Patricia. Je suis sûre qu'elle nous écoute, Patricia, parce qu'elle est fidèle du téléphone sonne. Merci beaucoup, Marc. On vous embrasse pour votre intervention. Martin, pour le coup, là, c'est immuable. Est-ce que dans 45 ans, ce sera aussi une Chloé Martin, à votre avis ? Il y a des chances, non ?
Chloé, je ne sais pas, mais Martin, alors on voit que le nombre de noms différents diminue. Et donc, il y a une prime aux noms qui étaient les plus fréquemment donnés. Sur les couettes, je ne sais pas. En revanche, on a posé une question sur la couleur des cheveux.
Ouais, châtain.
Et donc, c'est châtain aujourd'hui. Hein, donc, c'est pas Sheila, mais c'est châtain.
Françoise était plus blonde, d'ailleurs, dans mes souvenirs.
Tout à fait.
Vous vouliez ajouter quelque chose, Frédéric Brier, pardon.
Oui, alors, les deux Aurélie que j'ai trouvées, aucune ne portait de couette. Elles avaient des beaux cheveux, mais elles ne portaient pas de couette.
Est-ce que on a un auditeur qui s'étonne que les prénoms restent désespérément, j'allais presque dire, des prénoms qui sont vraiment très franco-français. Alors, on s'étonne de ça ou pas ? Ou est-ce que les femmes plus que les hommes, par exemple,
non.
Jérôme Fourquet ?
Là, il y a en fait, j'ai beaucoup travaillé sur cette question des prénoms. Donc, attention, là, comme on s'intéresse à la française moyenne, elle a 42 ans. Mm-hmm. Et donc, c'est des prénoms qui ont été donnés il y a 40 ans par construction. Et donc, si vous prenez les prénoms d'aujourd'hui, les choses qui sont données aujourd'hui, ça s'est considérablement élargi.
Parce que du coup, j'ai regardé pour me demander qui était la française moyenne de 2070, et on s'est mis à regarder quels étaient les prénoms les plus donnés donc, autour de l'an 2000, et c'est là qu'on est tombé sur Emma et Chloé. Voilà. Et j'étais assez étonné quand même que ce soit bien franco-français, ça.
Oui, alors vous avez néanmoins aujourd'hui 21% des enfants qui naissent qui reçoivent un prénom arabo-musulman, par exemple. Donc ça, c'est une révolution par rapport aux années 80. Deuxième élément, au début des années 80, garçons et filles confondus, on devait fonctionner à peu près avec 5 ou 6 000 prénoms différents. Aujourd'hui, on est à peu près à 12 000 prénoms. Donc la palette des prénoms s'est considérablement élargie et diversifiée.
On a Manuel sur WhatsApp qui dit « Ma femme coche quasiment toutes les cases, 43 ans, 2 enfants, 1m64 et 58 kilos. » Il met un petit smiley qui rigole. « Résident en périphérie de La Rochelle, dans un pavillon avec une voiture et un chat. » Sauf qu'elle s'appelle Françoise. Ah, dommage.
Est-ce qu'elle roule en Peugeot qui...
Alors effectivement, Manuel, puisque vous devez nous entendre,
envoyez
un message pour savoir en quoi vous roulez. Après, le pourcentage des animaux de compagnie, moi, je me fascine, en fait. Parce qu'il y a un bon 1988, 44%, 2024, 55%.
Oui, alors, et c'est uniquement chat et chien.
Ouais. Alors effectivement, le plus courant, c'est le poisson rouge. Voilà. Il a raison, Frédéric, mais là, c'est
effectivement,
chiens.
Donc là aussi, on est bien aussi sur ce mode de vie périurbain. Alors, je disais, la maison avec jardin, pour le chat et le chien.
Ça permet d'avoir un animal.
Ouais, voilà. Ouais. Et l'aspiration, le fait qu'on ait moins d'enfants aussi. Vous savez qu'on appelle ça un animal de compagnie.
Ouais.
Vous avez aussi, on n'en a pas parlé, mais le pourcentage de personnes qui vivent seules. Qui a beaucoup augmenté, et donc c'est aussi pour ça que l'animal de compagnie est de plus en plus fréquent, en fait.
Mais est-ce que ça veut dire que la potentielle Emma ou Chloé Martin, dans 45 ans, là, pour le coup, vivra seule, en fait, en tout cas, statistiquement, aura beaucoup plus de chances de vivre seule. Peut-être qu'elle sera divorcée,
oui.
Mais vivra seule avec son animal de compagnie.
Elle aura sans doute 10 ans de plus.
Oui, oui, absolument, puisque donc, forcément, vieillesse va, de...
Voilà, ouais. Et donc il y a des chances pour qu'elle soit seule, donc c'est un vrai sujet, cette question de la... Vous savez quoi? Je crois que c'est en Suède, il y a un ministère de la solitude, d'ores et déjà, parce que ça devient un sujet de société.
Mais c'est pour ça que je vous posais la question de l'animal, en fait, parce que je me demandais si c'était pas déjà ça aussi que disait l'animal. Est-ce que c'est simplement, effectivement, ceux qui n'ont pas d'enfants qui choisissent d'avoir un animal, ou parce que la solitude commence à peser?
Exactement, et vous savez que aux deux dernières élections européennes, il y a un parti animaliste qui s'est présenté aux urnes, au scrutin, et ils ont fait à peu près 2% à chaque élection, ce qui aurait été impensable en 80 quand Actuel avait fait ça. Qui avait beaucoup d'imagination, je pense qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'il y aurait un parti animaliste en France.
On a Benji qui nous demande s'il existe une Aurélie Martin, est-ce qu'il existe un Jean Dupont? On sait comment il s'appellerait, alors on sait que le français moyen est une femme, donc alors, c'est elle, mais si on veut son équivalent...
Alors, c'est vrai que je ne suis pas posé la question... Forcément, il s'appelle Martin.
Il s'appellerait Martin. Il faudrait peut-être qu'on regarde les prénoms. Jean, c'est...
Non, Jean, c'est mon père.
Alors, j'avais trouvé un livre auto-édité sur Internet où on parlait d'un certain Julien Martin qui se présentait et qui se décrivait de manière un peu laconique comme un Français moyen typique et qui disait « J'habite dans un pavillon de banlieue, je roule en telle voiture, etc. » Bon, je vous avoue, j'avais laissé la lecture de ce livre en version numérique, mais c'était un peu tombé des mains, c'était un petit peu ennuyé au bout d'un moment, mais je me souviens, il s'appelait Julien Martin, si je ne m'abuse. Voilà. Juste une remarque.
Allez-y.
Pour à propos des animaux, ce qui est intéressant, c'est les deux Aurélie Martin sur lesquelles j'ai été voir. Il y en avait une qui avait un gros chien et pas d'enfant, et l'autre qui avait un enfant, mais pas d'animal de compagnie. Vous voyez, donc c'est un peu...
Celle qui n'avait pas d'enfant, d'ailleurs, c'est intéressant. Là, pour le coup, ça dit le féminisme de ces 40 dernières années. Hein, a dit, j'ai choisi de voyager.
J'ai choisi de m'occuper de moi. Elle avait pas, finalement, elle a laissé passer des années, et donc apparemment, elle avait renoncé à un projet d'avoir des enfants.
Marina, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Comment ça va Marina? Vous êtes Marina Chiche?
Oui.
C'est ça, voilà, parce que je le vois inscrit, Marina. Je me dis, mais Marina Chiche, qui a été chroniqueuse chez Par Jupiter, on est content de vous entendre.
Et oui, mais alors moi, j'ai pas d'Aurélie Martin à vous proposer, mais j'ai une Françoise Martin, qui est ma maman. Et donc, il y avait, en 1981, l'année où je suis née, 33 ans.
Donc, ah mais pile dessus, mais c'est elle.
Oui.
Alors attends, 33 ans, est-ce qu'elle a fait 1,94 enfants, Marina?
Non, elle en a fait 3, ah. Je crois qu'il n'y a pas de virgule, mais bon, je ne sais pas.
Elle sentait la virgule.
Donc, voilà.
Une voiture ou pas déjà?
Une Renault.
Une Renault. En 81, il y a 40 ans, ça pouvait être une Renault aussi.
Oui, certainement.
C'était la marque dominante à l'époque.
Oui, il y avait moins de véhicules étrangers que...
Et toujours en couple, Marina, à ce moment-là, en
toujours
tout cas.
Toujours mariée, voilà.
Et ben voilà, ben, alors on n'a pas trop trouvé la Aurélie Martin, mais la Françoise, on l'a parfaitement. Et ben merci, on embrasse votre mère, merci beaucoup. Ben la voilà, merci beaucoup. La voilà, Françoise Martin, elle est donc toujours là. Et effectivement, c'est drôle parce que son âge moyen était 33 ans. À ce moment-là, ça donne quand même une idée du gap de la pyramide des âges, et du vieillissement.
On parle souvent du vieillissement, mais je pense que la prise de conscience va intervenir cette année ou l'année prochaine, quand pour la première fois, la France va compter plus de décès que de naissances, hors période de conflit. Vu les courbes, c'est cette année ou l'année prochaine que les courbes vont se croiser. Et donc là, on va...
C'est à quel moment qu'on s'inquiète, en fait, de ça ou pas, Jérôme Fourquet? Faudrait déjà s'inquiéter, j'imagine.
Le président de la République avait parlé de réarmement démographique, etc. Vous voyez qu'en France, dans le débat public, les seules fois où on parle de vieillissement, c'est pour les retraites. Le financement des retraites. Mais une société qui vieillit, c'est tout son métabolisme et tout son dynamisme qui se transforme. La grande distribution le sait, on mange moins, on consomme moins, on se déplace moins, etc. etc. Et donc on a une société qui... Voilà, la prise de conscience, elle va intervenir, je pense, au moment du croisement des courbes.
Voici Assia qui dit « Je m'appelle Assia, je suis divorcée, j'ai 3 enfants, je suis locataire dans un appartement, je n'ai pas d'animal de compagnie, dois-je m'inquiéter ?» Nous dit Assia, on répond « Oui, non ?»
Non, ce qu'on dit, c'était un espèce de barisson entre moyens, mais donc tout ça, c'est...
Heureusement, on a le droit de s'écarter de la moyenne.
On a le droit de colorier en dehors des lignes, penser en dehors de la boîte, je suis bien d'accord. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de rassurant dans une société, Jérôme Fourquet, quand on a des constantes, en fait, qui sont maintenues, à votre avis, d'une génération à l'autre? C'est un facteur rassurant ou au contraire, c'est un facteur d'immobilisme?
Alors, chacun jugera. Je pense qu'il reste quelques facteurs comme ça, un peu de repères qui donnent une forme de stabilité. Mais comme l'a vu Frédéric, et on en avait parlé, comme vous le rappeliez aussi, quand on rentre dans la vie de ces personnes, on voit comment les parcours de vie sont beaucoup moins linéaires qu'il ne l'était il y a 40 ans.
Réorientation de carrière.
Réorientation de carrière, déménagement, choix de partir un temps à l'étranger, etc., etc. Et donc, il y a quelques constantes, on voudrait une maison, un animal de compagnie, il y a beaucoup de Martin encore, etc. Mais dès que vous soulevez, si je puis dire, le capot, vous voyez qu'il y a des choses, des parcours, qui sont très très étonnants.
C'est intéressant les choix quand ils sont pas linéaires, parce qu'on se demande toujours si c'est les circonstances de la vie qui nous obligent à avoir un parcours qui n'est pas linéaire et donc qui pourrait aussi être chaotique, ou si ce que ça dit plutôt, c'est que
on a autonomisé.
Exactement. Et on a la possibilité aujourd'hui de faire des choix, avoir le luxe de faire des choix qu'on n'avait pas il y a 40 ans.
Tout à fait. Tout à fait.
De la part de notamment nos mères, etc. Quel est le salaire d'une Française moyenne, nous demande Simon?
Alors, le salaire d'une Française moyenne, si je reprends je ne l'ai plus en tête, je vous ai pris de m'excuser.
C'est aux alentours de... Alors, il faut faire attention, il y a...
Au-dessus de 2000, non, j'imagine, c'est 2000, ce que j'ai compris. Ça, ouais.
Alors après, c'est brut ou net, et alors souvent, il y a le petit piège entre la médian et moyen. Médian, c'est 50% gagne plus, on est aux alentours de 2000 euros.
Ce qui est par rapport au salaire médian, justement.
Alors je crois que on est aux alentours de ça.
On est dans le même.
Mais alors vous voyez, Paris-Province, vous êtes seul, vous avez des enfants, il y a deux voitures, il n'y a pas de voiture, vous êtes propriétaire-locataire, c'est beaucoup de.
En fait, si on prend chacun de nos auditeurs, je pense qu'on peut la fabriquer, Aurélie Martin, parce qu'on a un bébé là qui dit je suis divorcée, j'ai 4 enfants, je suis cadre sup. Donc là, c'est pas possible. Heureusement, j'ai un chat et une Peugeot.
Voilà.
Donc on doit pouvoir la fabriquer par petits morceaux.
Et comme disait Frédéric, c'est vraiment le Rubik's Cube, en fait.
Ouais.
Et donc, arriver à faire coïncider tout, c'est compliqué.
C'est très compliqué, effectivement.
Bonsoir, Mathilde.
Bonsoir.
On vous écoute, Mathilde.
Merci. En fait, en vous écoutant, j'ai été un petit peu surprise et un petit peu troublée des différentes femmes qui ont pu téléphoner. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à se reconnaître dans ce profil, dans le profil qu'est décrit ce soir Aurélie. Mm-hmm. Moi, je me sens pas forcément à l'aise avec. J'ai l'impression de rentrer dans pas mal de cases. Mais du coup, je me posais la question sur comment est-ce qu'on peut, en tant que femme, se demander qu'est-ce qui fait que ce profil il existe en termes d'inégalités qui sont encore bien ancrées. Ce profil, j'ai l'impression qu'il soulève des questions aussi importantes sur la charge mentale, sur comment dire, la pré-dépression sociale, sur les compromis qu'on fait quand on...
En gros, ce que vous vous dites, si je vous lis bien, Mathilde, ce que vous vous dites, c'est finalement ce portrait-là qui ressemble à plein de gens est pas très glorieux en fait par rapport à tous les combats qu'on a dû faire et qu'on a même gagné. Est-ce que c'est comme ça que je dois vous lire ? Et qu'on doit faire encore, évidemment, ouais.
Je serais curieuse d'avoir le profil de l'homme moyen.
Alors, comme la Française moyenne est une femme, le Français moyen est une femme, effectivement, on ne l'a pas là. On peut avoir une petite idée, Jérôme Fourquet, ou
oui, ou bah sur l'âge, on va être dans les mêmes eaux. La situation maritale, ça va être la même chose. Sur le métier, on sera moins employé, on sera plus profession intermédiaire ou ouvrier. Sur le niveau de diplôme, très important, on sera un cran en dessous des femmes, parce que les femmes font plus d'études que les hommes, et ça c'est un changement qui est déjà qui est tout à fait marquant, et qui explique aussi sans doute la dynamique de ces combats féministes. C'est-à-dire que il y a un accès aux études supérieures qui est plus important pour les femmes aujourd'hui, alors même que les salaires, les postes continue d'être en dessous.
Après, je comprends ce qu'elle nous dit, Mathilde. On se dit qu'il y a eu une évolution, qui a été une grande évolution. Alors surtout, effectivement, ces 45 dernières années, donc début des années 80, on est vraiment au sortir de la vague des années 70, puis on voit où on en est aujourd'hui. Mais au bout du compte et au bout de tout ça, le portrait moyen reste extrêmement basique. Une femme, deux enfants, mariée,
pas mariée.
Casée. Alors, de moins en moins mariée.
Plus mariée. Ouais. Donc c'est déjà un changement qui est majeur.
Et moins d'enfants. Donc c'est déjà aussi un changement.
Donc qui a fait plus d'études. Donc il y a des constantes, mais il y a quand même, il s'est passé et on a la trace de tout ça quand même dans ces chiffres. Il s'est passé beaucoup de choses.
Est-ce qu'on peut justement, quand on fait ces portraits là, est-ce qu'on peut les tracer, les moments? Est-ce qu'on les voit arriver les moments? J'imagine que vous avez vu des pics entre 80 et 2025. Il y a un moment, il y a des points de bascule. On les voit, ces points de bascule, ou pas?
Alors en fait, là c'est la sociologie comme la démographie, c'est quand même des sciences du diesel, j'ai coutume de dire. Ça se casse pas comme ça. Et si on devait chercher des moments de bascule, bah, en fait, ce serait le début des années 80. C'est-à-dire que le début des années 80, c'est la fin, pour répondre à Mathilde, c'est la fin d'un certain modèle et le début d'une nouvelle ère, en fait. Donc, on parlait des naissances hors mariage, on parlait des rites funéraires. Je pourrais vous prendre d'autres exemples. On n'en a pas parlé, mais je ne sais pas si Aurélie est tatouée. Mais vous voyez que Françoise ne l'était assurément pas. Ah, aujourd'hui, une femme de 40 ans, à 35% d'entre elles sont tatouées.
Aussi, c'est de la normalité, par ailleurs. Je peux vous en parler.
Mais vous voyez que c'est quelque chose qui était impensable. Et donc, il y a une autonomisation de l'individu quand même qui a été forte à partir de ces années-là, même s'il y a encore des grandes constantes.
Si on s'amusait donc effectivement à regarder quelle sera cette Française moyenne dans les 40 ans qui viennent, est-ce qu'on se dit que cette période qu'on est en train de vivre là, et je reste sur le terrain de Mathilde au fond, sur l'émancipation des femmes, les changements qu'il y a eu de ce point de vue-là, est-ce qu'on sait déjà que l'un des bumps, c'est maintenant en fait, c'est la vague MeToo, donc ce post-féminisme-là qui a changé mille choses, donc c'est le mariage pour tous qui a fait rentrer aussi des familles homoparentales, etc. etc. Est-ce qu'on se dit on le voit déjà, en fait?
Alors, il y a déjà des choses. On parlait de la natalité, par exemple. On est sur 3-4% de naissances par PMA aujourd'hui. Alors, tout type de PMA, vous voyez, donc c'est pas rien. Autre tendance, on voit aussi, pour les femmes qui continuent de se marier, que la règle qui voulait qu'on prenne le nom du mari... dans les jeunes générations, celles qui continuent de se marier, qui sont minoritaires, n'est plus suivie. On voit aussi comment on a déjà 20% des enfants qui naissent aujourd'hui qui ne reçoivent plus automatiquement le nom du père. C'est soit les deux noms, soit que le nom de la mère. Donc, en profondeur, Moi, je serais tenté de dire que ça bouge quand même assez vite. Mm-hmm. Quand, alors, à l'échelle de la vie de Mathilde, on peut dire que ça bouge pas assez vite, mais quand on dézoome et qu'on fait un peu de démographie ou d'histoire, sur 150 ou même plus années, la France a quand même énormément bougé en 50 ans.
À l'échelle de la vie d'Aurélie, effectivement, ouais. D'Aurélie Martin, peut-être qu'après tout, ça fonctionnerait. On s'est demandé tout à l'heure s'il y avait un Jean Dupont qui était l'équivalent. Moi, je me demandais si le portrait robot, au fond, et les cases cochées par la française moyenne, dont on a bien vu ensemble jusqu'à quel point ça pouvait changer, que c'était compliqué de cocher toutes les cases. Est-ce que c'est plus facile de tout cocher quand on est un homme, à votre avis, que quand on est une femme ? Est-ce que les évolutions jouent à plus au féminin qu'au masculin, on sait dire ça ou pas ?
Ah, je pense que ça a bougé quand même.
Ou de la même manière,
ouais,
en fait.
Ça a bougé à peu près de la même manière. Dans les années 80, M. Dupont aurait été ouvrier.
Ouais.
Et aujourd'hui, des ouvriers, il n'y en a plus beaucoup. Et donc ça a été un changement majeur. C'est-à-dire que dans les années 80, il y a quand même pas mal de femmes qui ne travaillaient pas, maintenant elles travaillent, donc ça c'est un changement majeur. Et on avait beaucoup d'hommes qui étaient ouvriers ou artisans ou agriculteurs et qui aujourd'hui sont dans d'autres types de métiers. Donc ça a beaucoup bougé.
Mmh. Et vous le disiez, effectivement, Monsieur Martin aurait été ouvrier. Du coup, aujourd'hui, il est probablement cadre,
alors,
grosso modo.
Profession intermédiaire,
ouais, c'est ça.
Ou employé.
Mmh. Voilà. Mmh. Sachant que sa femme est toujours donc, un petit poil en dessous, et ça va plaire à notre auditrice Mathilde, la pauvre, toujours avec un salaire qui sera inférieur à celui de son mari, quoi
qu'il
arrive.
En fait. Mais elle est plus diplômée que son mari.
Mais elle est plus diplômée que son mari.
Ça, c'est un changement majeur.
Mais voilà. Elle n'exerce pas dans les mêmes secteurs que
et elle n'exerce pas.
Du coup, il y a une réparation genre et des professions qui explique l'essentiel de cette inégalité salariale.
Eh bien, écoutez, si vous voulez rencontrer, en tout cas, les Aurélie Martin, les morceaux de cases cochées, allez-y dans Oui Demain, papier signé Frédéric Brier avec l'enquête IFOP. Grâce à vous, Jérôme Fourquet. Merci beaucoup, vraiment, à tous les deux. Merci d'avoir joué avec nous. Merci à toutes les Aurélie qui nous ont téléphoné, et aussi à celles qui ne cochent pas les cases, dont les Fabiennes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça.
Hein. On a tous en nous quelque chose d'Aurélie Martin.
On a tous en nous quelque chose d'Aurélie Martin. J'aime beaucoup cette phrase. La question des petits bateaux, c'est celle de Tariq.
Bonjour, je m'appelle Tariq. J'ai 5 ans et demi. Je voudrais savoir est-ce que nos microbes, bah nous, ont des microbes. Merci, au revoir.
Allez, au revoir Tariq, à la réponse dans 3 minutes.